Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Mais la politique à la télévision ne se limite pas à House of Cards. Et pour évoquer ce que la télévision a fait de la politique pour cette présidentielle, nous sommes en compagnie de Claire Sécaille. Bonjour, vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire communication et politique de l'IRISO à l'université Paris-Dauphine. À côté de vous, Philippe Riutor. Bonjour, vous êtes professeur de chaire supérieure en sciences sociales au lycée Henri IV et chercheur associé au laboratoire communication et politique. On avait l'impression que la politique aujourd'hui, c'était d'abord Internet, et cette campagne présidentielle semble devoir largement relativiser cette idée. Claire Sécaille, la télévision a joué un rôle assurément important.
La réalité, c'est qu'elle n'a jamais cessé de jouer un rôle important depuis 1965. Elle a toujours été très centrale dans les campagnes électorales. C'est vrai qu'on a l'impression de redécouvrir un petit peu son rôle. Alors, c'est amusant pour les spécialistes, mais ça dénote un petit peu les effets de croyance qu'il y avait eu à partir de 2007 dans les réseaux sociaux, le numérique, dont on croyait qu'ils allaient remplacer la télévision. Ça n'a jamais été le cas. Et on voit plutôt qu'il y a une forme de complémentarité, une recomposition de l'écosystème médiatique qui fait que la télévision conserve sa place centrale, mais désormais en accompagnant et en étant complémentaire de tout ce qui se fait aussi, se produit sur les réseaux sociaux.
Quelle recomposition alors ? Vous avez parlé d'une recomposition avec les réseaux sociaux. Bon, j'imagine qu'il s'agit de souligner la complémentarité entre l'usage d'un certain nombre d'applications, de Twitter à Facebook, par rapport à la télévision.
C'est qu'on adapte des contenus, des formats, des dispositifs d'émission par rapport à des publics. Aujourd'hui, on est un public complètement éclaté. Aucun téléspectateur, aucun internaute n'est seulement un internaute ou un téléspectateur. Donc, il se compose son offre d'information à partir de différentes sources, dont la télévision, dont les réseaux sociaux, etc. Et ça fonctionne comme ça. Et j'ajoute que c'est pas simplement l'exposition au contenu qui fait que l'on s'informe et qu'on se construit un jugement politique, mais c'est aussi la socialisation autour de ces contenus, c'est-à-dire toutes les discussions qu'on peut avoir avec la famille, avec les amis, les collègues, etc., qui font que l'exposition au contenu, c'est toujours un petit peu pour en montrer les limites aussi, c'est que ne va pas influencer forcément tout de suite les opinions, mais va participer à un bain social autour de ces contenus et qui va faire qu'on va se faire un jugement.
Philippe Riutor.
Alors, on peut revenir sur quelques évidences, sociologiques. Le fait que les caractéristiques de ceux qui tweetent, investissent énormément Facebook ne sont pas exactement les mêmes de ceux des téléspectateurs les plus assidus, même si bien évidemment on peut faire, comme Claire vient de le dire, plusieurs choses, y compris parfois plusieurs choses en même temps. Et moins on est diplômé, plus on est âgé, plus on est téléspectateur, et plus on s'informe par la télévision. Et on peut imaginer que c'est le cas d'un certain nombre d'électeurs, même d'un nombre croissant d'électeurs avec le vieillissement de la population, par exemple. Et que à l'inverse, plus on est jeune, plus on est étudiant, plus on est actif. Plus on est jeune actif, plus, bien évidemment, la télévision est considérée comme un vieux média, ce qui ne veut pas dire qu'on ne la regarde pas, on la regarde autrement, sur d'autres supports éventuellement aussi, et on fait autre chose pendant qu'on la regarde, ce qui veut dire qu'on tweet, ce qui veut dire qu'on réagit, et effectivement on discute. Ça, Lazarsfeld l'avait quand même dit il y a 70 ans, bien évidemment les médias peuvent avoir une importance sur les thèmes dont on parle, sur les thèmes qui s'imposent, mais ce qu'on appelait les groupes primaires, c'est-à-dire les conversations avec la famille, les amis, les proches, demeure quelque chose d'absolument essentiel.
Alors, il y a eu des nouveautés pour cette présidentielle en matière d'émissions télévisées. Tout d'abord, il y a une émission qui a été proposée par M6 Ambition Intime qui dévoilait ou prétendait dévoiler en partie l'arrière-cour ou, disons, le côté plus privé des candidats. Une émission qui aurait beaucoup fait, par exemple, pour la qualification de François Fillon, primaire de la droite, une information et des présentations de candidats qui ont modifié la donne, Philippe Riutor.
Après, franchement, je n'y crois pas trop. Si on fait une archéologie des émissions politiques à la télévision, il y en a une que tout le monde a oubliée à la fin des années 80 qui s'appelait « Question à domicile ». Elle apparaissait comme étant véritablement audacieuse puisqu'on allait pénétrer l'intimité, évidemment fausse et en grande partie fausse et évidemment préparée, des principaux politiques puisque l'émission avait lieu chez eux. Et on pourrait dire que depuis 25 ans, en France comme ailleurs, l'idée de s'intéresser aux personnages privés, ce qu'on appelle la psychologisation, ce que certains ont appelé la pipolisation, c'est quand même encore autre chose, puisqu'elle n'est pas forcément maîtrisée par les politiques. Mais cette forme de psychologisation, c'est-à-dire essayons de connaître le fort intérieur du politique, est quelque chose que l'on retrouve dans les portraits de presse écrite, bien évidemment dans les confessions à la radio, et de plus en plus donc à la télévision. Je dirais que cette émission est plutôt une stratégie de programmation originale de M6, qu'une véritable innovation, puisque si on regarde des émissions politiques beaucoup plus classiques, celle de France 2 par exemple, on a des interviews de politiques où on leur demande des interrogations sur leur enfance, leur fêlure. C'est quelque chose de relativement classique aujourd'hui.
Donc rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue. Alors, autre tentative de nouveauté, beaucoup de débats. Un débat donc avec tout d'abord 5 candidats, ça c'était sur TF1. Un débat qui a été très largement suivi, ce qui a même eu un pic d'audience à quasiment 12 millions de téléspectateurs, pardonnez-moi. Et puis un débat entre les 11 candidats à l'élection, ça c'était sur BFM, et là il a été suivi par 6,3 millions de téléspectateurs, donc des formats nouveaux avec une très large audience, Philippe Réhutor.
Ça va justement dans ce que vous dites sur la force, l'importance de la télévision, qui rythme véritablement la campagne électorale. Bon, ce n'est pas le seul endroit, mais c'est un endroit extrêmement important. C'est la première fois en France qu'on a des débats précédant le premier tour, auquel les différents candidats n'ont pas pu se dérober. On sait bien que Jean-Luc Mélenchon était très réticent pour le dernier débat, et pourtant il y est allé. Son absence aurait été évidemment révélatrice, en tout cas perçue comme telle, comme une faiblesse. Ce qui veut dire que la télévision met en scène véritablement les personnages, les personnalités politiques, ce qui correspond très bien avec l'élection du président de la République, qui est l'élection d'une personnalité également.
L'importance des chaînes d'information continue. Alors BFM annonce une audience record pour le mois d'avril, qu'il faut malgré tout relativiser par le fait que CNews, qui était auparavant iTélé, a considérablement perdu en matière d'audience. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a les chaînes d'information continue qui ont particulièrement pesé, Philippe Réhutor?
Très certainement, parce que certains parlent de BFMisation de la campagne ou de la politique, ce qui participe d'une sorte de petite musique au cours de laquelle des micro-événements, on a bien vu les visites à Whirlpool de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, prennent une importance totalement considérable. Je ne dis pas qu'ils sont montés en épingle comme si c'était quelque chose de fabriqué, mais qui va avoir une résonance très très importante. Et de ce point de vue, sans porter de quelconque jugement, on peut imaginer que les affaires de François Fillon ont pris d'autant plus d'importance que cela, à un moment donné, est devenu le principal fait de campagne dont on parlait tout au long de la journée, quoi. Donc cela rythme véritablement la campagne.
Avec des séquences qui ont quand même été, sinon fabriquées pour la télévision, du moins montées, visite sur un marché qui dure un quart d'heure, avec également ces deux visites à Whirlpool, Claire Sécaille.
Effectivement, ce qu'on s'aperçoit avec les chaînes d'information continue, c'est que l'agenda médiatique, il est très dépendant de l'agenda de terrain, de campagne des candidats. Et donc, dès qu'il y a un déplacement, dès qu'il y a un meeting, les chaînes de télévision sont forcément très présentes, pas qu'elles, bien sûr, mais c'est ce qui, quand on a une grille complètement ouverte à l'information, permet de remplir du contenu facile. Donc, le terrain, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été au centre des campagnes électorales télévisées. C'était pas le cas dans les années 60-70 quand la télévision avait pas les moyens de faire des campagnes de terrain. Ça restait une campagne officielle à travers les émissions politiques ou les spots de campagne. Mais à partir des années 80, les journalistes de télévision ont commencé à aller sur le terrain, à suivre les candidats, à poser le meeting comme un objet à part en soi, un objet de curiosité en soi. Et petit à petit, voilà, on a introduit des contenus avec aujourd'hui une immédiateté dont ont vraiment pris conscience les équipes de campagne, puisqu'elles construisent des moments de campagne, des terrains exprès aussi pour les chaînes d'information continue.
Beaucoup de meetings ont d'ailleurs été diffusés en direct sur les chaînes d'information continue. Ça aussi, c'est une nouveauté. Ce qui fait que le meeting qu'on pouvait croire désuet ou dont on aurait pu imaginer la disparition, il est encore très largement vivant. On a beaucoup commenté d'ailleurs l'affluence au meeting, Claire Sécaille.
Alors, c'est la fonction du meeting, d'être une démonstration de force, par définition. Donc, il faut effectivement montrer qu'on est un rassembleur, qu'on est capable d'attirer du monde, de rassembler sa famille politique. Et je dois dire que la campagne des meetings, pour en avoir fait 26 durant cette campagne, montre que ça a été une campagne qui a un peu mis à l'épreuve les candidats, même les principaux candidats qui avaient un capital politique qui était bien placé dans les sondages, qui ont peiné occasionnellement à remplir des salles et à faire la preuve qu'ils étaient capables aussi de rassembler leur famille politique. Je pense aux deux candidats des partis traditionnels qui ont remarqué surtout les absents
François Fillon et Benoît Hamon.
Voilà. Quant au candidat Emmanuel Macron, lui, il pouvait pas se baser sur une carte électorale de son électorat, donc il choisissait des villes où parfois il n'arrivait pas à attirer suffisamment de monde. Donc voilà, il y a que Jean-Luc Mélenchon qui a peut-être continuellement rempli des salles, fait événements autour de ses meetings, en ayant à chaque fois une double scène, hein, c'est-à-dire non seulement une salle pleine, mais à l'extérieur un écran avec autant de monde quasiment dehors. Donc ça, c'était assez spectaculaire. Mais les meetings sont des signaux faibles. On ne peut pas les traduire directement en termes de vote, de scrutin. Donc ça renseigne des dynamiques, des phénomènes autour des candidats, mais ça ne peut pas s'expliquer directement en termes de scrutin.
Et le fait que la couverture télévisuelle des meetings soit de plus en plus opérée par des images qui sont tournées par les équipes de campagne et non plus par les chaînes de télévision. Est-ce que ça change quelque chose ?
Alors, on va dire que c'est une réflexion qui est un peu absente dans les rédactions, il me semble. Mais ça fait depuis 2007 que les chaînes d'information continue diffusent en direct et en continu les meetings. Hein. C'est l'arrivée des chaînes d'information qui a tout changé, qui a remis au goût du jour ce rituel qui n'était pas tombé complètement en désuétude, faut pas. Mais c'est vrai qu'au début des années 2000, on en faisait moins, où ils étaient moins médiatisés. C'est vrai que depuis 2007, généralisation en 2012, et cette année, comme en 2012, on a eu énormément de meetings, à la différence près qu'il n'y avait pas une polarisation entre deux candidats comme en 2012, ce qui fait que tout était très ouvert, et qu'on a vu des candidats s'interposer. C'est le principe même de la médiatisation, mais de faire une superposition de scènes par médias interposés et de renvoyer les candidats avec des jeux de petites phrases, s'interpeller les uns les autres, se désigner comme adversaires les uns les autres. On voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron, souvent, et c'est eux qui se prenaient à partie l'un l'autre, pour construire quelque chose qui était lors de la compétition électorale. Donc la médiatisation, la retransmission des meetings, ça participe puissamment à sa structure, puissamment, Philippe le disait tout à l'heure, à cette compétition électorale.
Philippe Rivutor.
Oui, et puis les meetings permettent aussi d'exister politiquement quand on dispose de moins de ressources que d'autres, quand on est moins favori que d'autres. J'aurais du mal à le prouver là, mais on peut imaginer que la présence et l'importance de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne a été quelque chose qu'a effectivement attesté le meeting, à la fois par la mise en scène, la fameuse histoire des hologrammes, etc. Donc on voit bien que, par exemple, hein, comme Mélenchon a joué chaîne YouTube, etc. Bon, ce qui n'est pas d'une audace absolument folle, mais en tout cas montrant que ce n'est pas un candidat traditionnel, entre guillemets, alors que du fait que c'est un politique de longue date, entre guillemets, hein, élu pour la première fois en 86, l'idée de la nouveauté n'était pas forcément évidente chez lui. Il a quand même investi, et son équipe a fortement investi les réseaux sociaux pour justement jouer, déployer de nouvelles scènes, de nouvelles techniques, entre guillemets, avec l'histoire des hologrammes, qui a fait beaucoup parler des médias. Je pense que c'était un des rôles majeurs de cette innovation. Et évidemment, remplir et faire des démonstrations de force, comme Claire vient de le dire, en faisant en sorte qu'il y ait du monde autour de lui. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui est, on va dire, un très bon orateur, un tribun.
Mais un orateur classique également.
Absolument. Totalement classique. Totalement. Mais cela donne encore plus de force à la candidature. Et là, d'une certaine façon, au départ, si on regarde le poids de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages en janvier, etc., il est loin d'être considéré comme étant un candidat parmi les favoris. Donc, on voit bien que cela peut aussi attester une candidature.
Claire Sécaille.
Oui, je reviens sur, par rapport à Mélenchon, mais je reviens sur le débat, non pas celui qui est à 11, mais celui à 5, qui a eu lieu le 20 mars. Il y a quelque chose de très spectaculaire qui s'est produit après ce débat. C'est qu'on a vu que l'inversion de la courbe entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, dans les 24 heures après la diffusion du débat du 20 mars, s'amorcer et ne jamais changer de... Voilà. Donc ça montre quoi ? Ça montre que ben, les débats n'ont pas une influence forcément directe, mais quand ils sont diffusés dans des contextes où les opinions ne sont pas cristallisées suffisamment en amont du choix électoral, alors là, ils peuvent avoir une importance et accompagner des dynamiques qui s'expliquent par d'autres raisons, mais ils peuvent avoir un impact très fort. Et on a vu, c'était vraiment très spectaculaire. Alors, on a déjà commenté beaucoup François Fillon pour les primaires de la droite. Mais là, pour cette campagne-là, ce qui s'est produit après le débat du 20 mars, en tout cas pour le camp à gauche, hein, avoir le lead de la candidature de gauche, en gros, cet enjeu-là était très fortement, à mon avis, le débat a eu un rôle important.
C'est ce qui restera par rapport aux autres campagnes présidentielles et à la manière dont celles-ci ont été diffusées et accompagnées par la télévision, Philippe Rihutor ?
Certainement, puisque plus l'indécision, bon, c'est bien qu'il y a une mythique tout autour des face-à-face, on peut remonter aux États-Unis, au Nixon-Kennedy, où le débat ferait élire les candidats, ce qui est quasiment jamais le cas, enfin en tout cas très très rarement, mais là on voit bien que plus le statut de favori est quelque chose d'indécis, notamment effectivement le statut de vote utile de gauche, entre guillemets, entre Hamon et Mélenchon, le débat sert nécessairement à cristalliser les opinions que l'on se fait des candidats. Et manifestement là, comme Claire vient de le dire, a servi Mélenchon, entre guillemets, en vote utile de gauche, quoi. Donc il a eu cette fonction-là.
Et aujourd'hui, lorsque l'on observe donc ce second tour, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un candidat qui est plus servi que l'autre par la télévision ?
C'est difficile à dire, parce que les deux font quand même figure très largement de challenger. Et apparaissent comme étant doivent montrer leur capacité d'être président, leur présidentialité.
Eh bien, on continuera à en parler aux environs de 8h20. Nous serons rejoints par Serge Moati, qui avait fixé les règles du débat de l'entre-deux-tours, et l'on évoquera ce qui va se dérouler ce soir entre les deux candidats finalistes de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron.